51. Élise. Madame Madinier a sa tête des mauvais jours. Cette femme est un générateur de smiley. Elle dispose d'une expression différente pour chaque émotion. C'est assez impressionnant et très pratique. Il suffit de l'observer afin de connaître le bon moment pour lui demander une augmentation. Ce matin, elle arbore les sourcils en accent circonflexe, une tranchée entre les deux et le sourire à l'envers. Je me fais discrète. Je crains d'être la cause de son humeur. Il ne lui faut pas longtemps pour m'en donner la certitude.
Madame Duchesne, pourquoi votre chien est encore là? Vous deviez vous en débarrasser ce week-end, il me semble.
Je jette un œil sous le bureau. Édouard est tranquillement allongé à mes pieds. Il ne gêne personne. Hier soir, j'ai eu une idée. Je me suis souvenu que la nièce de Madame Di Francesco m'avait laissé son numéro de téléphone au cas où. Je la dérangeais visiblement, mais je n'avais besoin que d'une information. Où était Apple, le caniche de sa tante? La réponse ne m'a pas étonnée. À la SPA. Elle n'avait pu le recueillir, elle avait la phobie des chiens, et sa sœur n'en voulait pas. J'ai appelé le refuge, ils s'apprêtaient à fermer, le dimanche est leur journée la plus active, mais ils ont pu me renseigner. Apple était toujours parmi eux. Cage B7. Il ne me restait plus qu'à convaincre l'adoptant et ses enfants. Je m'attendais à ce que ce soit la partie la plus ardue. Ce fut le contraire. J'ai été honnête, l'homme a compris mes raisons. Peu après, il m'a envoyé un message pour me dire que ses enfants avaient craqué sur la photo d'Apple sur le site internet de la SPA. Ils avaient hâte d'aller le chercher le lendemain. J'ouvre la bouche pour répondre à Madame Madinier. Elle ne m'en laisse pas le temps.
Pendant des années, on a dû subir vos enfants. Maintenant, c'est le chien.
Mes enfants?
Vous ne vous souvenez pas de les avoir emmenés au bureau? Moi, je n'ai pas oublié.
C'est arrivé deux ou trois fois à peine quand il y avait grève à l'école.
C'était bien assez. Vous avez beau jeu de vous plaindre, de réclamer les mêmes salaires que les hommes. Commencez déjà par vous comporter comme eux. Après, vous pourrez pleurnicher.
Elle n'attend pas ma réponse et tourne les talons. Olivier me dévisage, son sempiternel sourire en coin. Nora adresse une grimace au dos de Madame Madinier. Cela ne suffit pas à me soulager. Je me lève et la suis jusqu'à son bureau. Elle s'assied, dos à moi. « Excusez-moi. »«
Oui ?»
fait-elle sans se retourner. « Mon chien viendra tous les jours avec moi. » Elle fait volte-face et enfile son visage énervé. Joues rouges, lèvres pincées, yeux exorbités.
« Pardon ?»«
J'en ai le droit. Il n'ennuie personne. Vous n'avez aucune raison de m'en empêcher. » Je vois presque la fumée sortir de ses narines.
Vous croyez pouvoir nous imposer cette chose?
Tout à fait. J'ai tenu à vous prévenir par courtoisie, mais vos commentaires n'y changeront rien. Je retourne à mon bureau avant qu'elle ne prenne feu, sous le sourire admiratif de Nora. Je m'assois et me plonge dans la lecture d'un rapport en attendant que mes mains cessent de trembler. Dans le reflet de l'écran de mon ordinateur, j'aperçois la silhouette figée de Madame Madinier. Elle n'émet plus aucun son. Comme pour me remercier, Édouard pose sa tête sur mes pieds. 52. Lily. Lors de notre dernière séance, la psychologue m'avait proposé de participer à un groupe de parole avec d'autres mères accidentées. Elle l'animait une fois par mois, toujours sur le même thème, la culpabilité. On était une dizaine, assises en cercle dans son bureau, parmi lesquelles mes compagnes de la salle de famille. La psychologue était assistée d'une élève sage-femme au visage poupin. Nous allons commencer par un exercice, a annoncé Eva. Le papier que je vous ai distribué est magique. Il vous permet de vous adresser à vous-même. Je vous laisse identifier les choses que vous vous reprochez, puis vous l'écrivez en employant le « tu ». Ce sera anonyme. Au terme de longues minutes, la psychologue a relevé nos copies et s'est isolée pour les lire. La maman des triplés me lançait des sourires gênés. Le silence enveloppait le groupe. Quand Eva est revenue, elle s'est assise face à la sage-femme et elle l'a mitraillée. « Tu n'as pas su protéger ton bébé. Tu aurais dû arrêter le sport. T'as fumé pendant ta grossesse, c'est bien fait. T'avais qu'à résister à ce fromage. 9 mois, c'est pas compliqué. Ton corps est un cercueil. Il fallait manger plus de légumes, tu le savais. T'as pensé qu'à ton petit plaisir. Les autres y arrivent. Tu n'en es pas capable. Le bébé a dû sentir ton stress. S'il meurt, ce sera de ta faute. Tu es une mauvaise mère. » La scène était insupportable. La sage-femme était assommée par les accusations. C'était d'une violence sans nom. Quand la psychologue a cessé son acharnement, on était toutes sonnées. Elle souriait. À voir nos mines, elle savait qu'elle avait gagné. Elle nous a demandé ce qu'on ressentait. On était presque unanimes. De la peine pour la sage-femme et un profond sentiment d'injustice face à la brutalité de ses reproches. On avait eu envie de prendre sa défense, de réfuter chaque attaque, de la consoler, de lui dire qu'elle n'y était pour rien, qu'elle avait fait de son mieux. « Pourtant, ce sont vos attaques, » a repris Eva. « Vos mots, votre brutalité. Je n'ai fait que les lire. Mais vu que vous en êtes également les victimes, cela ne vous choque pas. Jamais vous ne pourriez être aussi violente envers quelqu'un d'autre que vous ne l'êtes envers vous-même. Vous parvenez à trouver des excuses aux autres. Vous êtes impitoyable avec vous. La culpabilité est de la maltraitance envers soi-même. On a tous tendance à être la personne la plus sévère pour soi, alors qu'on devrait être la plus bienveillante. Pardonnez-vous, mesdames. Écoutez-vous. Ce qui arrive n'est pas de votre faute. Ce n'est pas de votre faute. » Elle a répété plusieurs fois la dernière phrase, en détachant bien chaque mot. J'essayais d'absorber la leçon, mais je m'en voulais tellement. Je n'ai pas voulu arrêter de travailler. Ma grossesse se passait à merveille, hormis ma grande amitié avec la cuvette des toilettes au premier trimestre, mon ventre s'arrondissait sans que ma vie s'en trouve changée. Ton papa s'inquiétait. Sa mère lui avait dit que le repos était indispensable au bon développement du bébé. Il a demandé au médecin de me prescrire un arrêt de travail. J'ai refusé. J'étais assise derrière un bureau. Je n'avais pas d'effort particulier à fournir. Il n'y avait aucune raison que je n'attende pas le début de mon congé maternité. J'ai continué à vivre normalement. Je faisais les courses, je portais les sacs lourds, je passais l'aspirateur, j'arrosais les fleurs. Je n'avais pas conscience de ta fragilité, mon amour. On a beau me dire que ça n'aurait rien changé, que même si j'étais restée allongée, l'hématome rétroplacentaire aurait pu se former, je m'en veux terriblement. Eva nous a demandé si on avait des questions. La maman de Clément a levé la main. Moi, j'en ai une. J'aimerais que vous m'expliquiez quelque chose. J'ai besoin de vos conseils. Je dors ici toutes les nuits, dans la salle des familles. Le canapé est dur, mais c'est toujours plus confortable que ma culpabilité. Si je m'éloigne de mon fils, je ne parviens plus à respirer tellement elle m'étrangle. Je sais pertinemment que je n'arriverai jamais à me pardonner. J'étais au volant. C'était un mercredi. La psychologue l'a interrompue avec douceur. Vous n'êtes pas obligée d'en parler devant tout le monde. Je sais combien c'est difficile pour vous. La maman de Clément n'a pas semblé l'entendre. Elle a poursuivi d'une traite, les yeux rivés à ses mains. Il pleuvait des cordes. Je revenais d'un rendez-vous chez le docteur. Il y avait du monde sur la route. J'étais exténuée. J'étais enceinte de 6 mois et je n'avais qu'une hâte, que ça se termine. Je ne supportais plus mon corps. Toutes ces douleurs, ces nausées. Je ne supportais pas de sentir bouger dans mon ventre. Mais, surtout, je ne supportais plus cette fatigue intense. Je ne me reconnaissais plus. Je me traînais. Je n'avais goût à rien. Je passais mon temps à dormir. J'étais devenue une loque et ça me mettait en colère. J'en voulais à ce bébé qui pompait toute mon énergie. J'ai fermé les yeux 1 seconde. Quand je les ai rouverts, j'étais à l'hôpital. Le ventre vide, mon fils entre la vie et la mort. Même son père ne m'adresse plus la parole. Alors dites-moi, comment on fait pour se débarrasser de la culpabilité quand on est vraiment coupable ?